Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. C'est lundi, c'est folie, c'est Ligue 1, c'est Liga, c'est Première Ligue, c'est sans la dame aussi, mais c'est promis, elle sera de retour vendredi. La Ligue 1 donc en France d'abord, et l'OM qui gagne, qui plaît, et Dieng qui claque. Bamba Dieng, tout jeune attaquant sénégalais arrivé de Diambar il y a un an à peine, et coqueluche du week-end, voire plus. Si affinité. Qu'en dit la Marseillaise Karine Galli, bonjour.
Bonjour, et j'en dis que je me régale avec l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison et qu'il y a toujours beaucoup d'intensité dans ces matchs et c'est déjà très bien.
Ah ben on va y revenir, ça tombe bien. L'OM qui se place, Monaco qui glace, passé d'équipe la plus emballante de la seconde moitié de saison dernière à la plus indigente, ou presque, de ce début de saison-ci. Au contraire de Nice, quatrième, un match et un point en moins, mais une défense de fer, la meilleure pour l'heure des cinq grands championnats. C'est vous dire, la patte Galtier déjà, nous verrons cela. Après la Ligue 1, version Côte d'Azur, la Première Ligue, version Nord, Manchester United d'abord, en tête avec un Ronaldo à la fête. Liverpool ensuite, en tête aussi ou presque, avec un Salah centenaire, 100 buts pour l'attaquant égyptien des Reds. Cinquième joueur le plus rapide de l'histoire à réaliser une telle performance. Je suis certain, mais alors certain, que Salim Bongali, que vous connaissez les 4 qui le devancent et l'ordre. Mais je ne vous le demanderai pas, il est déjà en train de chercher. Je le vois plonger, il cherche, il compte.
Shearer, Kane, Aguero et Henry.
On a dit que je vous le demanderai pas.
Ben voilà, je l'ai. Ben,
on le donnera pas. Alors ils n'ont pas entendu.
Bonjour,
j'espère.
Olivier.
Bonjour Salim. Pour terminer, vamos en España, s'intéresser à la Liga, au Real et donc surtout à Benzema et à Camavinga, pour lesquels hier ça a été soir de fiesta, ce qui signifie que pour Nabil Djellit aussi, hein, forcément. Si ça rigole pour Benzema.
Ça rigole pour Deschamps aussi, puisque maintenant c'est un joueur de l'équipe de France. Donc
pour tout vous dire, hier soir, Nabil m'a envoyé un texte en disant « Karine, dis donc, Benzema a marqué un triplé, t'en parles même pas ». Je lui dis « Mais attends, le meilleur pour la fin ». Nabil était au taquet, il regardait l'émission, il n'était pas content parce qu'à 23h50, on n'avait toujours pas parlé de Benzema, alors qu'on tease.
Bah, il a dû dire « Vivement Radio Foot demain, que je puisse en parler ».
Exactement.
Ben voilà, exactement.
C'est bien, Olivier, vous avez fait le job, bravo à vous.
Bon, bah, tout ça pour dire qu'on n'a pas vraiment le temps de niaiser, hein, comme d'habitude. Émission brainstormée avec David Finzel, manipulée par Laurent Salaire. Renaud, on y va.
Bamba Dieng, récupération de Harit qui lui aussi est entré dans les 16-50, qui a trouvé Dieng. Quel but de Bamba Dieng qui a réussi à se retourner, qui a réussi à inscrire un doublé et qui met l'OM largement devant. Marseille mène 2-0. C'est là qu'il pense pour Sampaoli et les Marseillais.
Dieng, Bamba Dieng, 21 ans, natif de Pikine, formé à Diambar, donc à Sali, à quelques kilomètres de Dakar. Héros de la victoire de l'OM à Monaco samedi, un doublé et des observateurs qui s'emballent. Vous aussi, Madame Galli?
Bah oui, après Nabil le disant qu'il faut pas le cramer bien évidemment, mais ce qu'il a fait samedi soir, c'est une prestation pleine. Et puis ce qui est beau dans cette histoire face à Monaco, c'est le scénario, c'est-à-dire qu'il touche plusieurs fois les poteaux.
Donc, deux fois je crois. Hein,
ouais. Voilà. Mmh. Et donc tu peux imaginer que potentiellement il va trembler. Il a 4 échecs, on va dire, parce que il y a des tentatives, il y a des poteaux, et à la 5e il met ce but. Et finalement ça va se conclure par un doublé. Et les deux buts sont très beau, ses prises de balles, son premier contrôle est excellent, et c'est vrai que on va pas dire c'est bon, si Milik revient pas, on est sauvé, etc. et tout. Mais samedi, il a été à la hauteur du début jusqu'à la fin. Après, il a eu une petite pointe, il est sorti, mais ça fait du bien de voir un jeune attaquant comme ça qui prend ses responsabilités et qui est en pleine confiance et qui marque en plus des beaux buts. Après, le collectif marseillais fonctionne bien. Lui, il l'a sublimé en convertissant ses occasions.
On va y revenir parce qu'on va s'arrêter, bien sûr, sur ce cas Bamba Dieng. Quelques secondes, quelques mots pour vous, Nabil?
Non, mais je suis assez d'accord avec Karine. On a vu qu'il avait des qualités de vitesse. Il a été utilisé à bon escient par son entraîneur. C'est pas un attaquant de fixation. C'est un joueur qui n'a même pas été placé en faux neuf. C'est un joueur qui a été placé sur un côté. Donc, c'est bien pour sa palette et son registre. C'est-à-dire qu'ils pourront l'utiliser dans l'axe, mais aussi sur les côtés. Même s'il y a d'autres joueurs dans le logiciel de Sampaoli qui peuvent faire la maille Sur le côté, sa connexion aussi, on en parlera peut-être avec l'international marocain Amin Harit, qui a été franchement très intéressante. Après, moi, voilà, j'ai pas de doute sur le garçon, sur sa motivation, son degré d'exigence et sur sa progression. Mais par contre, faut pas que ça soit la hype Bamba Dieng, parce que vous savez, dans le football, je vais vous dire, un Jean-Michel Poncif, dans le football, ça va vite. Alors, il va vite, ça c'est une certitude, mais il va falloir aussi bien le gérer, parce que on ne parle que de lui maintenant, et ça veut dire et aussi également son téléphone qui va commencer à sonner. Et le regard des gens à son égard qui va changer. Donc j'espère que tout ça va être bien géré.
Et des agents chez le président pour revaloriser le contrat, mais c'était prévu. Ainsi, quelques mots rapides.
On profite évidemment de cette période pour Dieng, et c'est normal qu'on l'évoque ainsi avec ses deux buts marqués et cette victoire à Monaco. Après, il avait des responsabilités. On le rappelle, Milik toujours blessé, Payet qui n'était pas là. Donc forcément, on en attendait beaucoup. Et il a répondu présent. C'est bien pour ce moment-là. On verra s'il poursuit, mais effectivement, qu'il progresse doucement, mais sûrement.
On va essayer de le connaître un peu mieux. On l'écoute d'abord, Bamba Dieng, et on y revient.
Je remercie toute l'équipe de m'avoir aidé à réaliser cette belle prestation. C'est vrai, j'ai fait deux poteaux, mais je savais qu'aussi ça va venir parce que je suis resté concentré pour mieux faire après et j'ai pu marquer deux buts. Je suis toujours disponible pour le coach, je vais rester concentré et à chaque fois je rentre ou je joue titulaire ou voilà, je vais faire ce que je dois faire et c'est bon. J'ai même pas les mots pour vous dire, mais je suis très content aussi.
Oui, ça s'entend qu'il est très content. Bamba Dieng, formé, on l'a dit, à l'académie Diambar, en partenariat avec l'OM. On y va, tiens, à Diambar. Souvenir d'un passage de Radio Foot. Là-bas, c'était en 2015, il y a 6 ans, et David Finzel tenait le micro et avait, paraît-il, encore des cheveux.
Là, vous avez une chaussée. La chaussée, c'est donc la place qui est réservée aux voitures.
Je suis instituteur, j'enseigne toutes les matières, c'est au niveau élémentaire.
Là, nous sommes dans une classe, quel niveau?
Le niveau CM2.
Parce qu'à Diambar, on n'apprend pas que le football apparemment.
Non, on n'apprend pas que le foot. Actuellement, on est en train de faire une leçon de vocabulaire. Il y aura ensuite une leçon de calcul, une leçon de grammaire, dictée, orthographe. Donc toutes les matières qu'on voit au niveau élémentaire sont enseignés ici à ces gosses-là.
Enfin, ça va? Les classes, c'est pas plus dur que le terrain? Ah, qu'est-ce qui est le plus dur? Le terrain ou la salle de classe?
Terrain. On va fatiguer.
Allez, bougez. Ambiance du côté de Sally, donc il y a 6 ans, mais elle n'a pas changé. Cette ambiance, n'en doutons pas. Questionnons le président de cette académie là-bas au Sénégal. Merci. Bonjour, Saher Sek.
Oui, bonjour Olivier, bonjour.
Merci
bonjour
d'être avec nous, c'est un réel plaisir, parce que forcément on a beaucoup parlé de Diambar ces derniers jours. Il vous a fait plaisir le petit samedi?
Oui, grand plaisir, plaisir qui a été couronné dimanche par la qualification de l'équipe en premier tour préliminaire de la Coupe CAF, donc beau week-end avec le but de Idrissa également, beau week-end pour Diambar.
Oui, on va revenir sur les stats du week-end des Sénégalais parce que ils ont fait très très fort les Lions. Vous êtes surpris de le voir éclore. Il vous a quitté il y a un an à peu près. Il est arrivé en octobre 2020. Et puis les choses s'accélèrent ces derniers temps.
Oui, tout à fait. Pour dire vrai, non, je n'ai pas été surpris. Quand j'ai proposé Bamba à l'époque à Jacques-Henri Hérault, pour lui demander de le prendre parce que j'étais persuadé qu'il serait un bon joueur professionnel pour l'OM et qu'il avait le niveau de l'OM, mais en restant tranquille et puis en travaillant avec le jeune, j'étais absolument persuadé, compte tenu de ses performances au Sénégal, sur deux saisons, que de ce qu'on voyait, des confirmations qu'on avait, que le garçon avait effectivement les qualités.
Alors il a
alors,
été...
Depuis son...
Oui.
Ouais.
Allez-y.
Alors depuis son arrivée à l'OM, il a fallu être patient, c'est ce que nous lui avons dit, d'être patient, d'être concentré, pas sur ses contrats avec tous les commentaires qu'il y avait, etc., mais d'être concentré sur son travail, d'être patient. Il a été... très bien accueilli et a été en post-formation bien suivi par Nasser Larguet, qui a pu voir tout le potentiel qu'il y avait effectivement dans le jeune et ce qui a été confirmé par l'actuel entraîneur, Jorge Sampaoli. Et bon, il attendait, ronger un peu son frein, mais c'est un garçon qui est calme et qui est déterminé. Et maintenant, après la performance du week-end, on a quand même beaucoup parlé en lui demandant qu'il n'y avait pas de quoi s'enflammer et que le football, ça allait vite d'un côté comme de l'autre, qu'il fallait rester calme, qu'il ne serait probablement pas encore le titulaire de l'OM avec l'arrivée de Milik et le retour de Payet, mais qu'il aurait peut-être un peu plus de minutes et d'être comme ce samedi dernier prêt et puis pour profiter de toutes les minutes qui lui seraient offertes.
Il est la preuve que ce partenariat hein, qui a été mis en place entre l'OM et votre académie, Diambar, c'est une bonne chose, une réussite. C'est gagnant-gagnant, comme on dit, pour les uns comme pour les autres.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'essence d'un partenariat. Et, ça permet effectivement pour certains de nos jeunes, je suis persuadé qu'il y en a encore ici dans l'académie qui ont largement le niveau pour, après une période d'adaptation, jouer effectivement en Europe. De fait, aujourd'hui, on a quelques jeunes un peu partout, à Feyenoord, à Valence, à Pacoche Ferreran, etc. Et je pense que l'OM, effectivement, y compris d'ailleurs avec le nouveau président Pablo Longoria, qui était en début de mois au Sénégal, à Sali, avec nous pendant 2 jours, on se prépare effectivement à donner un peu un souffle nouveau à ce partenariat pour essayer de donner le maximum de chances au maximum de jeunes parce qu'il y a du bon travail qui se fait au-delà de Diambar, dans les académies à la fois au Sénégal comme en Afrique, et aujourd'hui on voit que l'Afrique sort beaucoup de jeunes, même si les jeunes qui viennent d'Afrique doivent encore, pour moi, mériter un peu plus de considération de la part des clubs européens.
C'est important, ces partenariats, pour les académies telles que la vôtre. On a vu, Lyon s'intéresse, le PSG, je crois, va créer sa propre académie en Afrique. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui ?
C'est important dans le sens où, effectivement, ça permet, j'allais dire, de sécuriser une forme de sortie des meilleurs joueurs qui sont formés dans les académies, parce que c'est un peu ça le but du jeu. Et donc cela permet d'obtenir un peu plus d'attention d'un certain nombre de clubs, et notamment du club partenaire. Si effectivement tous les ans nous on peut sortir 2 ou 3 jeunes à l'Olympique de Marseille ou dans des clubs partenaires, ou du fait des jeunes qu'on sort à l'Olympique de Marseille, on attire l'attention d'un certain nombre de clubs et qu'on donne plus de visibilité et de chance aux jeunes. Parce que, en tout cas, en ce qui concerne Diambar, nous, c'est ça notre devise, c'est un peu tendre la main aux jeunes, les former. Je rappelle que la formation est totalement gracieuse. Pendant tout le temps que Bamba Dieng est resté à Diambar, il n'a pas payé un centime. Et donc offrir à ces jeunes la possibilité effectivement de prouver que en Afrique il y a du talent et que ces talents peuvent s'exprimer dans les meilleurs championnats au monde.
Et il y en a un qui sait particulièrement qu'en Afrique il y a du talent, même si son champ d'action c'est surtout l'Afrique du Nord, c'est Nabil Djellit.
Il n'y a pas de frontières, c'est comme en musique. Hein.
Surtout dans le foot. Nabil, vous avez une question pour
Serre. Oui, pour Serre. Bonjour Serre. J'ai une question. Alors, dans vos propos, il y a quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a intéressé. J'aimerais bien avoir votre vision là-dessus. À un moment, vous avez dit on aimerait bien avoir un peu plus de considération de la part des clubs européens. Moi, je regarde aujourd'hui dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, il y a donc Bamba Dieng qui est arrivé via un partenariat. Je connais pas les chiffres, mais à mon avis, c'est surtout pas les chiffres de Luis Enrique, un Brésilien qui est arrivé pour 8 millions d'euros du Brésil, qui avait pas davantage de référence que ce joueur-là. Est-ce que c'est ça, entre les lignes, qu'il faut comprendre aussi, que lorsqu'on est un jeune à fort potentiel en Afrique, c'est pas 500 000 euros, ça peut être aussi des millions d'euros comme des jeunes sud-américains. Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de l'image et également pour qu'il y ait un retour financier, un retour sur investissement plus légitime pour les talents africains ?
Absolument, Nabil. Tout d'abord, un plaisir de d'être en contact avec vous et je suis vos émissions et vos positions. Que je partage. Et en réalité, ce que vous avez décodé, exactement ce que je suis en train de dire. Si Bamba, il s'appelait, au lieu de s'appeler Bamba Dieng, il s'appelait Bambino ou Bamberino, c'est 5 millions d'euros au moins pour Diambar. Et là, on est en train de parler du 10e, voire même du 20e. Donc, C'est ce que je dis, et je dis effectivement que la formation, si on veut effectivement que le football africain se développe, doit arrêter effectivement d'être paupérisé. Et c'est à la fois la responsabilité des instances au plan international, mais c'est aussi essentiellement la responsabilité des différents clubs qui doivent avoir un regard, qui est un regard un peu plus équitable. Alors c'est vrai aussi que c'est la responsabilité des centres émetteurs. Mais vous savez, quand un garçon a une possibilité d'aller jouer dans un club en Espagne, en France, et que la proposition ne nous donne pas satisfaction et qu'on la refuse, vous ne pouvez pas vous imaginer la pression que nous avons en tant que dirigeants du joueur, de la famille, de l'entourage, pour laisser le jeune aller effectivement tenter sa chance. Et on est en réalité dans un cercle qui n'est pas vertueux, où en réalité les clubs émetteurs formateurs en Afrique subventionnent de manière effective les clubs qui sont des clubs professionnels qui sont supposés être des centaines, voire des milliers de fois plus riches que nous. Et donc, c'est un gros problème. N'importe quel joueur brésilien coûte 3 millions d'euros, 5 millions d'euros, 10 millions d'euros. Je suis persuadé que Bambadien fera une carrière au moins égale à celle de Luis Enrique, qui a coûté entre 8 et 10 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, mais que je ne suis pas sûr qu'à 10 millions d'euros, Marseille prenait quasiment tout l'effectif de Diambar plus les entraîneurs.
C'est ce qu'on appelle le football circus, hein, pour résumer. Non, mais c'est intéressant, on est bien dans cette mouvance-là quand même.
Non, mais c'est quand même intéressant de le soulever et de le souligner. Alors, je vais faire mon travail de journaliste d'investigation mercato. On m'a parlé d'un gamin qui pourrait être promis à l'OM. Vous me dites si c'est de l'info ou de l'intox. Michael Fay, défenseur central, gaucher, 2004, très bon joueur.
Oui.
Est-ce que ça vous parle
oui,
ou est-ce
oui.
que des, ou pas
oui,
du tout?
Oui, oui, oui. Oui. Ce n'est pas un dossier simple, mais c'est un dossier qui existe, c'est vrai.
Et il pourrait aller à l'OM éventuellement?
Oui, tout à fait.
D'accord, écoutez.
Bon, bah, ça
on,
veut dire
va, que... on va retenir son nom surtout.
Ça veut dire surtout qu'on va être obligé de rappeler CR7 dans quelques semaines ou quelques mois.
Très talentueux footballeur.
Et vous en avez beaucoup des très talentueux footballeurs du côté de Diambar. La preuve, ça marche même au niveau national et au niveau international dans les Coupes d'Afrique. Merci beaucoup, Saersek. Merci mille fois d'avoir répondu à mon message WhatsApp un peu tardif.
Non, bah, aucun souci. C'est un grand plaisir. Merci.
Et on ne manquera pas de vous rappeler maintenant.
Et à bientôt au Sénégal,
vous inviter. Et à bientôt au Sénégal, surtout. On vient dès que possible. Tous.
Parfait, vous êtes attendu.
Comme d'habitude, profession invité.
Bienvenue à
Diambar. Ah ben bien sûr, alors Karim Galli est d'accord aussi, Salim Bongali, on profite, la dame n'est pas là, on squatte les invites, on lui enverra une photo. Elle est déjà venue, merci encore une fois, et puisque vous avez eu la gentillesse de nous répondre et que vous êtes aussi très proche de la sélection d'Aliou Cissé, que l'on salue, que vous saluerez pour nous, comme le président Senghor, les stats des Lions du week-end, hein, ça vous dit Bamba Dieng, un doublé. Idrissa Ganagay, vous l'avez dit, pour le PSG, un but. Sadio Mané pour Liverpool, un but. Kalidou Koulibaly avec Naples face à la Juve, un but. Mambiram Diouf du côté d'Hatay Spor en Turquie, un but. Illiman Diaye en Championship, c'est du côté de Sheffield, un doublé. Et Edouard Mendy, le gardien, clean sheet avec Chelsea. C'est pas mal, non, pour le Sénégalais que vous êtes? Ça donne envie de les retrouver tous.
Pas mal. Non, bah, tout à fait. On va les retrouver très bientôt pour la prochaine fenêtre FIFA. Pour nos matchs contre la Namibie.
Et on s'en réjouira. Merci beaucoup. À très très bientôt, Saersek, encore une fois. Pour Bamba Dieng, je l'ai dit, contrat logiquement en voie de revalorisation. Ses agents rencontrent les dirigeants de l'OM. C'était prévu. L'OM, maintenant qu'on va refermer la page exclusivement Bamba Dieng, l'OM qui réussit son début de saison, hein, on peut pas dire autre chose. 3 victoires, 1 nul, un match en moins. À Nice, un match, on a appris aujourd'hui, qui sera rejoué le 27 octobre à 19h, temps universel. On ne sait pas encore où ce sera, on sait juste que ce sera à huis clos. Si l'OM devait remporter ce match-là, il reviendra de longueur du Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on appelle un début de saison réussi, Karine.
Oui, après, ce match-là sera compliqué, puisque c'est deux équipes qui nous emballent, quand même Marseille et Nice. Mais ce qui est quand même bluffant, c'est que Marseille, depuis le début de la saison, produit du jeu. Et là, on le voit encore samedi soir face à Monaco. Alors, Monaco est méconnaissable et c'est... impensable de les imaginer dans cette forme-là, mais il y avait énormément de nouveaux joueurs titularisés et on a vu vraiment du jeu collectif. C'est ça qui est bluffant, c'est-à-dire qu'après quelques semaines, Jorge Sampaoli et tout son staff sont arrivés à déjà mettre un jeu collectif qui fonctionne, qui nous régale, alors que il y avait énormément de nouveaux sur la pelouse. Moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de mettre en avant. Et en plus, on a vu des scénarios. Il y avait eu le scénario contre Montpellier, même le scénario contre Bordeaux. Il est en leur défaveur, mais tu passes de 2-0 à 2-2. Dans tous leurs matchs, il y a eu des beaux buts, il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'intensité, il y a eu du rythme. Et si on... Globalement, franchement, depuis le début de la saison, on peut être heureux de ce début de championnat. Mais Marseille réussit effectivement son début de championnat. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, même s'il va y avoir la charge de la Ligue Europa.
Voilà, c'est là où j'allais venir. C'est que maintenant, encore une passe décisive de Karine, c'est là où j'allais en venir. C'est que maintenant, les fameux matchs tous les trois jours, en tout cas, ces séquences européennes et donc le championnat, surtout après ce début de saison... Mais qu'est-ce que vous allez envoyer comme signal en Coupe d'Europe avec Longoria qui a fait, en tout cas, qui a fait en sorte d'avoir des recrutements intéressants, avec Sampaoli qui essaie de mettre en place un jeu. Vous pouvez pas vous permettre de mettre l'équipe B ou l'équipe C en Europa League. Vous êtes obligé de vouloir jouer, donc de mettre quasiment une équipe type. Mais est-ce que ce sera donc la même qui jouera trois jours après en championnat avec l'enchaînement, etc.
Pourquoi d'autres y arrivent et il y a qu'en France où ça semble nous poser un problème.
Après, c'est vrai que ce que Sampaoli quand même demande,
c'est très exigeant.
Très énergivore. Mais la question est bonne parce que c'est vrai que il y a des gens qui jouent le jeudi et le dimanche et qui s'en sortent, et nous en France on est toujours fatigués. Mais c'est vrai que Sampaoli demande quand même un investissement qui est plus élevé que la moyenne.
Le souci entre guillemets, et là, c'est que Sampaoli, c'est pas le même système que bien d'autres formations.
Allez, il faut qu'on avance. La Mario Sampaoli, on vient de le dire, a pris du côté de l'OM. Celle de Kovacs a tourné, hein. En revanche, à Monaco. Meilleure équipe de deuxième moitié de saison il y a quelques mois. Deux doigts et un but qui ne compte plus double à l'extérieur de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était face au Shakhtar Donetsk. Et puis patatras, hein. 16e, les hommes du Rocher. Une victoire, un nul et trois défaites. C'est déjà bien. Quelques mots avant d'évoquer Nice. Plus rien ne va à Monaco, Nabil.
Oui, plus rien ne va. Moi, je pense que c'est un club qui est en crise. Ils ont pris un coup énorme derrière la tête avec l'élimination face à Donetsk l'année dernière sur la seconde partie du championnat. Très sincèrement, c'était la meilleure équipe du championnat de France. Ils ont battu deux fois le Paris Saint-Germain dans les yeux. Cette équipe, comme l'a dit Karine à juste titre, elle est méconnaissable. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Tactiquement, il y a des choses qui ont été revues à l'été qui n'ont pas réussi. Il y a aussi des choix qu'on peut estimer un peu douteux. Le gardien, Nöbel, qui est un œilleur pour l'instant très faible puisqu'il a été choisi sur les mêmes qualités. Ça nous fait penser à l'histoire de Trapp.
On ne voit pas tout à fait pour le moment.
À l'histoire de Trapp au Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis on retrouve ce Monaco friable défensivement, journée porte ouverte. Hein. Vous parliez tout à l'heure de Dieng qui s'est baladé. C'est le cas. Donc moi je crois qu'il y a un début de quelque chose qui va pas du tout du côté de Monaco entre Kovac et certains de ses hommes.
Et Nabil va nous dire Salim va nous dire on verra jeudi en Europa League.
Oui, peut-être ou pas, parce que Kovac d'ailleurs son discours lors de l'élimination face au Shakhtar, il était déjà très clair juste après le match, je m'en souviens très bien, en évoquant les jeunes, sous-entendu qu'il allait faire tourner en Europa League ou en tout cas en phase de poule. Donc pas sûr que ça puisse faire ressaisir les esprits monégasques, mais c'est vrai que c'est surtout un club qui est illisible. Justement, on parlait de Donetsk avec ce match retour qui est génial de la part de Monaco et ils ont juste surtout été malheureux en fait lors de ce match retour. Mais donc, vous avez un tel match et une telle performance quand même sur le terrain et puis capable de réaliser des matchs catastrophiques en championnat, c'est totalement illisible.
Alors du coup, Nice a pris le créneau laissé vacant par Monaco, hein, tout en haut. Victoire tardive, mais victoire 2-0 à Nantes. La troisième de rang, des Niçois quatrième à un point de l'OM. Celui perdu sur tapis vert, toujours, face à l'OM, on se souvient de ce match. Nice, dont le but est inviolé en quatre matchs. Quatre clean sheets, comme on dit là-bas chez nos amis d'Outre-Manche. Seule équipe des grands championnats européens à réaliser une telle performance, pour le moment. Est-ce qu'on peut déjà parler de Pat Galtier?
En tout cas, oui, c'est très très attrayant parce que même hier où ils ont été dominés, malmenés par les Nantais, bon les Nantais ils ont un manque de réalisme qui est quand même incroyable, c'était déjà le cas lors de leur précédent match, mais en compte ça va à 10 000 et hier leurs deux buts sont sur des comptes, mais c'est construit, c'est beau, c'est efficace, et Guiri régale, Dolberg régale, et ils ont quand même une confiance en eux qui est incroyable parce que en deuxième mi-temps, t'as Lemina qui sauve sur la ligne, etc. Mais ils sont quand même, je trouve qu'il y a quand même une force qui émane de cette équipe qui est due forcément aussi à Galtier, parce que Galtier, il avait déjà donné ça à Lille l'an dernier, c'est qu'ils étaient capables de renverser des situations et ça les a portés jusqu'au titre de champion de France. Et là, je trouve que Nice, collectivement, ils ont une force, ils ont une façon d'arriver à écœurer leur adversaire et à les punir. Donc voilà, c'est une des belles équipes aussi, c'est une des plus séduisantes de Ligue 1 depuis le début de la saison.
Une des plus réalistes aussi. Alors, Dolberg, le Danois, 4 buts. Amine Gouiri, je suis sûr que vous allez me parler d'Amine Gouiri, international jeune français. Enfin bon, vous connaissant, vous devez l'espérer ailleurs.
Non, je lui souhaite surtout de faire une belle carrière.
4 buts chacun. Delors, qui vient d'arriver, passeur décisif. Tout ça se met bien en place.
Bah, c'est vrai qu'on avait l'impression que Nice, la saison dernière, c'était un assemblage de joueurs sans cohésion, sans liant. Et c'est effectivement ce qui a changé avec un vrai bloc équipe. Bon, voilà, on connaît la recette Galtier. Bien défendre, c'est important, réduire les espaces, se projeter rapidement et laisser parler le talent des joueurs. Et du talent, il y en a du côté de Nice, vous avez raison. Moi, c'est ça où je trouve hallucinant parfois, parler de Gouiri, mais comment Lyon a pu le laisser filer pour 8 millions d'euros? Alors ok, qui laisse partir Maolida pour 10, qui a pas réussi du côté de Nice, qui est parti du côté du Hertha Berlin, je peux entendre, mais Gouiri, on voyait que c'était un garçon qui avait d'énormes qualités. Pareil, Melvin Barr, qui est arrivé sur le côté gauche également, un jeune avec une vraie marge de progression. En plus, la réflexion sur le recrutement, il a été bon. Ils espéraient Bougrak Yılmaz, ils ont eu de l'or. Ça reste quand même un très bon joueur de Ligue 1, même si la saison dernière, c'était quasiment le MVP sur la deuxième partie de saison. Ça a été l'homme décisif du titre de Lille. Donc, tous les voyants sont ouverts. J'espère pour eux également qu'ils vont récupérer Atal, qui se blesse malheureusement un peu trop. Mais il y a aussi des jeunes extrêmement intéressants. Le fils Thuram, Kefren, au milieu de terrain. Rosario, qui a été recruté. Boudaoui, qui ne cesse de progresser. Donc, il y a les ingrédients, vraiment, pour viser un top 5. Pas de Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils peuvent viser le top 3? Si c'est pas Galtier, je vous dis non. Avec Galtier qui connaît parfaitement la Ligue 1, pourquoi pas?
Et le mot de la fin avec Salim.
Et dans les joueurs qui étaient là, est-ce que Kasper Dolberg, ça pourrait pas être le Bourak Yılmaz, en quelque sorte, de Galtier cette saison à Nice? Lui qui a eu beaucoup de mal au final à s'adapter à la Ligue 1.
Oui.
Ben là, j'ai envie de dire, enfin, il va peut-être pouvoir montrer le talent qu'on attend de lui ou qu'on a entreaperçu lorsqu'il était en jeune, soit à l'Ajax ou même au Danemark. Ben là, peut-être en tout cas que Galtier a réussi à trouver ce qu'il fallait pour le mettre dans la bonne position.
Un mot quand même sur le retour de Dante, on n'en a pas parlé, de Dante ou Dante, je sais pas comment
on va voir
Akani, exactement comment il faut prononcer. Non, mais c'est un peu ce qui a été un peu fait du côté de Lille avec Fonte, vieux briscard, avec un jeune à côté de lui.
Fonte.
faut pas pousser avec Fonte. Si vous faites de la musculation.
Non, Olivier, fais pas de musculation.
Je te
confirme, il en fait pas.
Et Dante qui retrouve son pic avec Galtier, à côté de lui le jeune Todibo. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi de l'expérience et du talent. Et de la jeunesse.
Et le talent, il en a la bile.
Non, pas du tout.
Tac, tac.
Je vous parle plus, je vais soulever de la fonte. La Ligue 1 s'est pliée, des ballons, la première ligue.
Greenwood. Greenwood had a pop. Woodward spilled it. And guess who's there? Cristiano Ronaldo has stolen back the show. It is Ronaldo. It's 2-1 United. That's the man. And the number is 7. Manchester United 4. Newcastle United 1.
Quel talent ce Laurent Salerno quand même.
Ah non mais il est exceptionnel.
Non mais là c'est.
Il
est revenu, il a convaincu, pas Laurent Salerno parce que lui il a pas besoin, il revient toujours et il nous convainc encore plus. 12 ans après, le Real puis la Juve, Cristiano Ronaldo est donc revenu à Manchester United. 36 ans, premier match samedi face à Newcastle, on l'a entendu et forcément donc bon. Allez, boum, un doublé. Une dinguerie ou même pas?
Ah oui, parce qu'en plus, son premier but, c'est un but de renard des surfaces, parce que c'est une grosse frappe qui est relâché par le gardien, et le deuxième, on dirait un gamin de 20 ans, alors qu'il a quand même 35 ans. En fait, c'était écrit...
37 en février, pour être précis.
Ah oui, 37, ouais. Oula, je l'ai même pas dit. Mais c'était écrit... En fait, ce qui est dingue, c'est que tu sais qu'il revient à la maison, il est titulaire, pourtant, à la fin, il te dit « j'étais stressé et tout », mais tu savais qu'il allait marquer, et il y a que lui pour faire ça, parce que Antoine Griezmann, il est retourné à l'Atlético ce week-end, bon, bah, ça s'est nettement moins bien passé pour lui.
Même limonade, oui.
Et c'est incroyable, parce que tout s'est passé parfaitement bien. Il met le premier but, il y a l'égalisation, il met le deuxième but. Enfin, t'as l'impression qu'il écrit un livre parfait à chacune de ses sorties. Et l'ambiance qu'il y avait à Old Trafford, franchement, à Old Trafford, il n'y a pas une ambiance de dingue normalement. Là, c'était incroyable du début jusqu'à la fin. Et puis, il n'est même pas sorti, tu vois. Il a 37 ans. Non, il a mis son doublé. Et ben, il reste sur le terrain jusqu'au bout. C'est fabuleux.
4-1 face à Newcastle, Salim.
Il était l'acteur principal, il était le réalisateur aussi, en fait. Parce qu'il a voulu faire un film parfait pour lui, en l'occurrence. Ça ne pouvait pas être mieux. Tout était prévu en avant. En tout cas, il y avait une ambiance, Karine l'a dit, qui était assez incroyable en avant-match. Le public qui est rentré beaucoup plus tôt que d'habitude à Old Trafford. D'habitude, dans les stades anglais, en général, on attend très tard pour entrer dans ces tribunes. Là, on a voulu entrer beaucoup plus tôt et surtout une séquence très importante après le match. Donc oui. Après le match, évidemment, les joueurs rentrent dans leur vestiaire tranquillement. Et il y avait des journalistes qui attendaient que Ronaldo puisse ressortir pour faire une interview, en l'occurrence, nos confrères de la Sky. Et là, un nombre important de supporters sont restés après le match. D'habitude, je vous dis, ils partent à toute vitesse. Non, ils sont restés en se disant, on va peut-être voir Ronaldo, on va peut-être le voir. Ils l'ont vu longtemps, en l'occurrence. Et nous, en tant que diffuseurs, on a diffusé ce sonore, en l'occurrence. Mais c'était très difficile parce qu'il y avait une telle ambiance autour de Ronaldo. Ronaldo a dû mettre un casque pour entendre les questions, tant il y avait une ambiance de dingue autour de lui.
Eh ben, on écoute son entraîneur, tiens, Ole Gunnar Solskjær. Vous allez voir, lui aussi, il est évidemment sous le charme.
Cristiano tire tout le monde vers le haut. Il oblige ses partenaires à être plus concentrés quand il est là. Il est exigeant vers lui-même, ce qui se répercute sur le groupe. Il a accompli tant de choses dans sa carrière. Il est dorénavant si discipliné. Il reste un finisseur impitoyable, précis, avec un sens du but extraordinaire. Il sent le football.
Le gars est inusable, non? Parce que, alors, on va voir, hein, tout le monde attend ce que va donner Messi dans un club différent, en l'occurrence au Paris Saint-Germain, Ronaldo, Manchester United, le Real, la Juve. Il revient à Manchester comme pour boucler la boucle et à chaque fois c'est performant, il y a rien à dire.
Non, mais c'est Benjamin Button du football, quoi. On a l'impression qu'il est encore plus jeune que
Benjamin Button, pour nos auditeurs, hein, c'est ce film, voyez-le parce que c'est extraordinaire, avec Brad Pitt, où il naît vieux et où il rajeunit tout au long de sa vie.
Bah voilà, bébé. J'ai l'impression, de toute façon, il a 36 ou 37 ans, je sais pas, mais bon, quand tu le vois physiquement...
37 ans en février voilà, prochain.
C'est marrant, c'est un bon mois, février.
Ouais. Ah oui, vous savez ça, vous?
Oui.
Oui, parce qu'on va skier.
Non, mais c'est ça, Forever Young, enfin, c'est l'impression qu'il est,
génie du placement.
Intemporel.
Imperméable à la pression.
Ouais, intemporel, c'est ça. Et puis, bon, moi, je dis, il joue plus au foot, il marque des buts. J'ai l'impression que c'est dû à un chasseur incroyable, comme sur le premier but, et il a une intelligence de déplacement, il a conservé une vitesse incroyable. Bon, la Juventus a perdu 30 ou 40 buts cette saison, Manchester en a gagné 30 ou 40.
Est-ce que cela dit, Salim, il ne faut pas attendre encore un petit peu? C'était Newcastle, c'est le premier match, on est toujours plus exigeant, bien sûr.
Oui, comme vous l'avez dit, c'était Newcastle, mais après, beaucoup n'ont pas réussi à faire ça, même face à Newcastle simplement, et encore une fois, pour un premier match, réussir... Déjà pour un premier match, alors qu'il n'y a eu que très peu d'entraînement avec ses coéquipiers, à être au final trouvé, parce qu'il a été souvent cherché, alors pas tout le temps trouvé, mais quand même assez régulièrement. Déjà ça, on a vu un début de connexion, notamment avec Paul Pogba, avec Bruno Fernandes, qui le connaît de sélection, mais avec Paul Pogba, on a vu ce trio bien se trouver.
Il va peut-être vraiment avoir envie de rester, Paul Pogba, non?
Ah ben là, pour le coup,
Ouais, mais enfin, il peut pas lier sa carrière forcément qu'à Cristiano Ronaldo.
Surtout Cristiano a 36 ans. Voilà, bientôt 37.
Mais en tout cas, qu'il fasse un an encore quand même Mbappé avec le Paris Saint-Germain, ça, c'est une certitude.
Oui, de toute façon, comme ça, il sera libre.
Ouais, voilà.
Encore une fois, en tout cas, c'était bien lié ensemble. Et je rappelle, Cristiano Ronaldo est un numéro 9 désormais à Manchester United. Il n'évolue pas à gauche. Il est 9. Donc, il sera en mode renard, comme tu disais, Karine. Oui, il va chasser des buts.
Et l'entente? avec Bruno Fernandes, avec donc Paul Pogba, on a vu, mais bon, voilà, il faut que ça se mette en place.
Ça marchait bien. En tout cas, pour un premier match, ça fonctionnait
alors,
plutôt
bien.
Alors,
qui a tiré les coups francs
Ben, pourquoi il y a eu très peu de coups francs, au final, à distance intéressante. Ouais. Donc, on attendra, au final, les prochaines rencontres. Est-ce qu'ils vont les laisser à Cristiano? Est-ce que Bruno Fernandes va dire, ben non, là, tu peux me les laisser quand même? Ça va être l'une des discussions, comme les pénaltys, d'ailleurs. Bruno Fernandes, d'habitude, c'est lui qui les frappe.
Je pense que les pénaltys, personne va s'approcher de Cristiano Ronaldo, il va les prendre.
Non, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que Bruno Fernandes soit éteint par Ronaldo, ce qui est un peu le cas en sélection, alors que Bruno Fernandes, depuis qu'il est arrivé à Manchester, c'est lui qui a quand même redonné la lumière à ce club. Et ce qui est bien samedi, c'est que pour le coup, les deux ont marqué.
Voilà. Donc, fabuleux de Bruno Fernandes.
Il est superbe. Donc, comme ça, tout le monde était heureux, je pense, à la fin du match. Les deux Portugais, chacun avait eu son moment de gloire.
Après, il peut y avoir une grosse inquiétude pour Cristiano dimanche, parce qu'il y a West Ham Manchester United. Donc, ça peut être une grosse inquiétude.
Bien sûr.
On va le laisser dans sa minute personnelle, solitaire. West Ham. Donc, les Hammers, nous verrons cela. Venez lundi, tiens, qu'on en parle. Manchester United en tête. West Ham est septième, hein, je crois. Il me semble avoir
c'est
vu.
C'est ça. Ouais.
Trois victoires, un nul, comme Chelsea et Liverpool. Donc, on rappelle, la victoire de Liverpool hier 3-0 à Leeds. On va passer aux Reds. Premier but, Mo Salah, l'Égyptien, 100 buts en première ligue, on l'a dit dans les titres. En 162 matchs, il n'est pas le plus rapide. Quiz, monsieur Salerno, on se tait, monsieur Bongali, parce que déjà tout à l'heure, vous avez parlé trop vite. On écoute.
And it's Thierry Henry. And Henry is magnificent. And when you need a goal, you need Thierry Henry. Kane, past Van Dijk. Can Harry Kane finish here? Oh, you bet he can!
Shearer can try and get in between the defenders. The burp is there and struggling. Here's Shearer. What a marvellous goal by Alan Shearer.
Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again!
Ils sont fous. Des c'est comme commentateur anglais. When you need a goal, you need Thierry Henry.
Non, mais c'est génial.
Ah bah oui, c'est génial. C'est pour ça.
Exceptionnel quand tu réécoutes la les
extraordinaire. Qui sont les quatre qu'on a entendu donc qui devancent
Henry, Alan Shearer, le Kuhn et Harry Kane.
Harry Kane.
Dans quel ordre?
Henry, Harry Kane, Shearer, le Kuhn.
Mais...
Je sais pas. Vous me demandiez à la radio.
Ah non.
Le plus rapide, c'est Shearer, non?
Shearer, je pense, non?
Oui, ensuite.
Thierry?
Non.
Le Kuhn?
Oui, non.
Non, bon, Harry Kane alors.
Alan Shearer en 124 matchs, les 100 buts. Harry Kane en 141 matchs. Kun Agüero en 147 matchs. Et Thierry Henry, je devance juste deux petits matchs, notre ami Mo Salah. 160 matchs pour When You Need a Goal, You Need Thierry Henry avec Arsenal. Enfin, c'est quand même pas mal, quoi. 100 buts pour Mo Salah. Je crois qu'il y en a eu. Deux avec Chelsea?
Exactement. 98 avec Liverpool et deux avec Chelsea.
Après, Mohamed Salah témoigne aussi d'une évolution du football et des chasseurs de buts, même si Kane est un numéro 9 de métier. Mais dans les joueurs cités, c'est tous des numéros 9.
Ouais.
Et Salah est un excentré attaquant, c'est-à-dire ceux qui ont finalement un peu tué le boulot des numéros 9 avec les stats qu'ils font, en rentrant sur leurs pieds, parce que Salah, bon, il peut évoluer effectivement à deux devant derrière un attaquant, il peut évoluer en faux neuf également, vous le mettez avec Sampaoli ou avec Bielsa, il fera le faux neuf, mais dans la tactique, en tout cas de Jürgen Klopp, tout bêtement, si vous êtes dans le football des années 80 ou 90, c'est un ailier. Thierry Henry également a pu évoluer comme ça en s'excentrant et en rentrant, mais c'est encore plus impressionnant en sachant qu'il est pas, quand il a le ballon, le premier truc qu'il a devant lui, c'est pas le but. Ce qui n'est pas le cas de Kane ou de Shearer, qui ont été des attaquants de métier. Ça veut dire aussi des efforts sur le côté, des replis également défensifs, des contre-efforts. Ça situe quand même ce qu'a réussi quand même Mohamed Salah.
Mais dans le même cas, Harry Kane arrive à un tel total dans une équipe qui ne gagne jamais.
C'est vrai.
Enfin, deux titres, je veux dire.
C'est-à-dire que, pas ce week-end non plus.
Mais c'est ça que je dis. Harry Kane, il est à Tottenham et Tottenham n'a pas gagné.
Ils ont fait une finale avec Champions, quoi.
Harry Kane, donc je trouve que Harry Kane, c'est quand même extrêmement fort, parce que évidemment Mo Salah c'est énorme, mais Liverpool a été vraiment dominateur comme Thierry Henry avec Arsenal, alors que Harry Kane, il se bat dans des équipes qui parfois sont pas non plus extrêmement dominatrices. On l'a vu notamment ce week-end avec Crystal Palace. C'est Crystal Palace qui avait le ballon. Je veux dire, c'est quand même dingue.
Sa chance à Harry Kane, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de comme un Shearer à l'époque, ou même Agüero à un degré moindre, de pas avoir de concurrence. Au final, quand vous êtes dans le groupe, j'entends par là,
oui.
Qu'on sert au final pour marquer les buts. À Tottenham, il y a quand même Heung-Min Son, mais à un degré moindre. Mais c'est vous qu'on sert. Là où à Liverpool, vous avez Salah, vous avez Mané et Firmino quand il est en forme aussi. Donc
il y a une variété de buteurs.
Je vous propose d'écouter forcément son entraîneur, hein, Jurgen Klopp, et ses éloges.
C'est super pour Mo d'atteindre cette barre. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller depuis qu'il nous a rejoints. Il est fantastique, il en veut toujours plus. Je l'ai vu dans le vestiaire, il était déçu de ne pas avoir marqué un but supplémentaire. Les grands joueurs sont comme ça, et c'est très bien.
Ouais, Jurgen Klopp, toujours un plaisir. Deuxième meilleur buteur africain de Première Ligue, hein, Mo Salah, au passage, à 4 buts de l'Ivoirien.
Didier Drogba. Ah. On gagne quoi? Parce qu'on répond à toutes les questions, mais on ne gagne rien.
Ça, faut voir avec la dame. Hein. Moi, j'ai
un
pas
voyage
budget.
Au Sénégal.
Ah oui. Si, c'est ça. C'est hein. On attend les billets. Un mot sur le coup dur de la soirée, quand même. Cette image terrible qu'on n'a pas envie de voir ou revoir. Ça me fait froid dans le dos.
Cheville
luxée,
à
l'arrivée.
Oui, c'est ça. Ce qui est bizarre, c'est ce qu'a dit Jurgen Klopp. Il a expliqué que c'était une dislocation de la cheville, donc on ne parle pas de fracture.
Pour le jeune milieu défensif, alors, Harvey Elliott.
Les mots sont utilisés, effectivement. Le mot dislocation a été utilisé. Le mot aussi opération a été utilisé malgré tout. Donc, il va se faire opérer. Il n'y a pas de fracture ouverte. Ça, c'est a priori ce qui est acté. Bon, voilà. Mais il va quand même être out à un bon bout de temps. Juste, je préfère retenir ce qui s'est passé après. À l'hôpital, en l'occurrence, il est sur son lit d'hôpital avec sa famille à ses côtés. Il est légèrement endoloré, je crois qu'on le comprend. À côté de lui, il y a un footballeur amateur qui, lui, vient de se casser le bras dans son match amical, dans son match, voilà. Et le footballeur amateur est fan de Liverpool. Café Harvey Elliott et la famille d'Harvey Elliott, ils lui ont donné son maillot du match.
Ah, c'est génial!
Son maillot du match et la photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Comme quoi, voilà, Harvey Elliott, il est blessé, il est pas bien. Sa famille et lui, ils pensent à quoi? À donner le sourire à un gamin. Voilà.
Ça, c'est belle histoire.
Je note pour l'avenir, réinviter Salim Boumgali.
J'avais pas entendu cette histoire.
Moi non plus. Un mot aussi.
T'as pas noté là, hein, note bien. Ouais.
Donc, voyage au Sénégal, business class pour.
Écho, ça me suffira. Tant que j'y vais, je suis contente, moi.
Un mot aussi de la première victoire de Crystal Palace. On l'a évoqué, un mot rapide. C'est Patrick Vieira quand même, Crystal Palace. Il n'avait pas gagné un match jusqu'ici. Et bing, 3-0 face à Tottenham, qui lui avait tout gagné jusqu'ici. But de Wilfried Zaha, l'Ivoirien, doublé du français Hudson Edward.
Ouais, c'est surtout Hudson Edward qui a marqué les esprits. Un garçon qui a été formé au Paris Saint-Germain, comme d'autres, qui était parti à Toulouse, qui a eu quelques soucis là-bas, et qui s'est fait un nom, comme Moussa Dembélé, le Lyonnais, en Écosse, du côté du Celtic. C'est attaquant de l'équipe de France Espoir, avec un potentiel, à mon avis, beaucoup plus intéressant que celui de Moussa Dembélé, le Lyonnais. Il était courtisé, je le connais bien, au départ par Leicester, parce que son ancien entraîneur, Brendan Rodgers, voulait le récupérer du côté de Leicester. Et là, je trouve que Crystal Palace a fait un super coup avec lui.
Absolument.
Il est efficace dans la surface, il pèse. C'est un mini Lukaku, enfin, dans l'esprit, quoi, dans l'esprit. Et ça peut faire du bien à Patrick Vieira, parce qu'il était quand même temps de gagner.
Il est entré, et 28 secondes après son entrée en jeu, il marque quand même. C'est assez affolant pour son premier ballon, et pour son 3 ou 4e ballon, il marque son 2e but. Enfin, pour lui, c'est une entrée rêvée, comme Cristiano a fait une entrée rêvée à United, mais pour lui, c'est pareil.
On va parler d'un autre gars, tiens, dans quelques secondes, qui a fait aussi une entrée rêvée hier, mais c'était ailleurs, c'était en Espagne, monsieur Salerno.
Modric, l'extérieur, la classique, la reprise, Camavinga, incroyable histoire et scénario. Et oui, ce large sourire, l'international français marque son premier but avec le Real. C'est beau. Benzema pour le triplé. Nueve frappe 3 fois. Le Real Madrid s'échappe, s'envole. Victoire 5-2 face au Celta de Vigo. Karim Benzema signe un triplé plus une passe décisive. Camavinga est entré en cours de jeu et l'ancien Rennais a marqué après 6 minutes de jeu. C'est une soirée rêvée pour le Real et pour ses Français.
Quelle soirée en effet pour nos Françaises del Real. Le Real d'Ancelotti encaisse mais marque 8 buts en 4 matchs, 5 pour le seul Karim Benzema. Du coup, on l'a dit, Nabil est arrivé en planant, sans rien prendre, juste comme ça.
Ouais, c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'il fait depuis 2 ou 3 saisons. Il progresse tout le temps, c'est ça qui est assez impressionnant. Physiquement, il a progressé. Techniquement, il a progressé aussi, par exemple, dans son jeu de tête. Hier, on l'a encore vu marquer un but magnifique de la tête. C'est certainement dû au fait d'avoir côtoyé Cristiano Ronaldo et d'avoir travaillé le gainage au niveau de la sangle abdominale qui lui permet aussi aujourd'hui de se maintenir dans les airs peut-être un peu plus de temps que lorsqu'il était plus jeune. C'est un joueur complet. En plus, il y a une vraie complémentarité avec les joueurs autour de lui. Il y a du respect. Avec Modric, ce sont les deux patrons, les deux tauliers aujourd'hui du Real.
Mais on pourrait même aller plus loin. Sans Messi ni Ronaldo, est-ce qu'il ne serait pas la star de la Liga?
Bah oui, parce qu'il n'y en a plus.
Ben, on pourrait parler de Suarez, on pourrait...
De Griezmann
non, alors oui, il y a, non, soir... c'est lui,
il y a
oui,
Suarez quand même. Il y a Suarez aussi quand même, parce que Suarez... Ben oui.
C'est... Ouais, mais Suarez, il est moins... En fait, dans son style, non, mais dans son style de jeu, il va moins, c'est moins esthétique. Voilà.
Oui,
c'est un grand
là,
attaquant.
On parle de
Benzema,
star.
C'est un balai, quoi.
La question, c'était star et Suarez. Ah. Il a quitté Barça. Il va à l'Atlético. Poum, titre de champion de France, titre de champion d'Espagne. Et Suarez, ça reste quand même un nom. Ça reste ce qui se fait de mieux dans les meilleurs neuf aussi. Alors, son passage au Barça à la fin.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est avec Lewandowski et Benzema?
Bah, sur la saison qu'il fait l'an dernier avec l'Atlético, il était très bon. Après, il n'était pas dans le top 3, mais s'il fait un bon chemin en Ligue des Champions, il y a eu le problème de la Ligue des Champions quand même.
Mais
il,
si on
il
demande
le
de
redevenir.
Citer les 5 meilleurs attaquants spontanément, bah, je le mets dans les 10, mais pas dans les 5. Mais je mets Lukaku, Benzema, Lewandowski, Kane et Haaland.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais ce qui ne veut
pas
dire que.
C'est vrai,
mais,
dans le top 10.
Mais Benzema, ce qui le fait rayonner encore plus, c'est sa participation au jeu. Luis Suarez optimise au maximum tous les ballons, il gratte des ballons,
de
c'est un finisseur incroyable, ouais. Un caractère incroyable. Dans le Money Time, il est exceptionnel, mais Benzema, il y a une dimension un peu plus esthétique.
On l'a vu mardi dernier avec l'équipe de France, en plus, parce que quelle semaine pour lui. Il a été rayonnant, même s'il n'a pas marqué avec les Bleus, il a retrouvé Lyon. Dans le week-end, il plante 3 buts, une passe décisive. C'était le premier match du Real au Santiago Bernabéu, nouvelle version depuis 1 an et demi. Donc première minute aussi pour Eduardo Camavinga, 18 ans, arrivé quelques jours plus tôt, 31 millions d'euros et donc buteur après.
Plus 9 de bonus, c'est important.
Oui. Surtout que là, le bonus, il va tomber, sans doute, si ça continue comme ça. 6 minutes de jeu, c'est pas aussi bien que les 28 secondes auxquelles on faisait référence tout à l'heure, mais ça n'augure de rien, mais mieux vaut ça que le contraire.
Oui, enfin, voilà, ses premières minutes, il a pu jouer, il a pu sentir ce Santiago Bernabéu, et en plus, donc, un but. D'ailleurs, hier, au final, sur les 5 buts, 4 ont été marqués par des Français, au final. Triplé de Benzema et Camavinga pour l'autre aussi.
Le cinquième, c'est Vinicius.
Pour lui, c'est vraiment des débuts rêvés. Comme quoi, le mot rêve, là, c'était vraiment le mot du week-end, quand même. Et Camavinga a pu en profiter parfaitement.
Oui, c'est quand même pas mal.
Oui, oui. Alors après, moi, je vais pas du tout m'emballer quand même sur Camavinga parce que le monde et la marche qu'il va devoir franchir est énormissime. C'est-à-dire qu'il passe d'une saison quasiment blanche, en tout cas ratée, avec Rennes, et là, il bascule dans un autre monde. Mais c'est sûr, évidemment, on lui offre quelques minutes de jeu, il marque. Et en plus, il avait déjà marqué avec les espoirs, donc c'est une très bonne chose. Après, voilà, l'aventure ne fait que commencer et il va falloir qu'il grandisse et qu'il apprennent auprès des milieux de terrain qui sont titulaires et qui sont pour l'instant pas déboulonnables.
Le Real 5e avec un match en moins et donc potentiellement co-leader avec Valence et l'Atlético. Valence, leader. Bon, pourquoi pas, ce n'est que le début de championnat. Ouais. C'est vrai qu'on les a connus en ayant beaucoup de problèmes. On aura l'occasion de reparler de la Liga, bien sûr. Dès demain, on va basculer dans la Ligue des Champions. Je voudrais vous parler de quelqu'un qu'on connaît bien dans Radio Foot, qui a eu, presque indirectement, sans le vouloir sans doute, une promotion aujourd'hui. Le Red Star, actuel 15e de National, 3e division française, a annoncé donc aujourd'hui la mise à pied de l'entraîneur Vincent Bordeaux et de son adjoint Jimmy Modeste, laissant le groupe aux mains de l'ancien joueur et consultant. Décidément, c'est l'émission des Sénégalais aujourd'hui. Habib Bey, du moins temporairement, dit la Dépêche. L'équipe de Seine-Saint-Denis, 7e du précédent championnat, compte 6 points après 6 journées de National. Vendredi, elle a perdu 6-0 contre Annecy. Son prochain match est programmé vendredi contre Villefranche. Ce sera donc le premier match pour l'ami Habib Bey en tant qu'entraîneur en chef. On espère pour lui que ça se passera bien et que ce sera le moins temporaire possible. Mais voilà, c'est la nouvelle du jour et vous connaissez tous l'affection que l'on porte à Habib. Alors
on lui souhaite de commencer par des résultats positifs parce qu'il y a des intérims qui ne se terminent pas et qui deviennent ensuite des postes plus pérennes.
C'est ça.
Là, je sais pas pour. C'est une opportunité, faut pas se mentir. Hein. C'est la réalité du football. Mais on verra comment ça va. Le National est un championnat extrêmement compliqué.
Tellement.
Alors on l'embrasse et puis on se permet de dire merde.
Bah bien sûr.
Allez, on va lui dire.
De toute façon, il est en apprentissage. Donc là, il a franchi une étape un peu plus rapidement que prévu. Mais bon, après, voilà, on va voir la suite. Mais on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses.
Et nous, on se retrouve demain, toujours avec Laurent Salerno et David Finzel. Demain sur